Une femme de 76 ans renversée sur un trottoir à Gap.
C'était samedi tôt le matin. Le conducteur a été identifié. Il est activement recherché. Une enquête pour blessure involontaire aggravée par délit de fuite est ouverte par le parquet de Gap.
Les averses orageuses de la fin de semaine dernière ont créé un petit lac à la Condamine-Châtelard.
Par sécurité, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris la décision samedi d'interdire l'accès aux cours d'eau, tout comme les activités aquatiques et la navigation entre la Condamine-Châtelard et Saint-Pons.
Puis Saint-Pierre appuie sur le bouton off.
Dès ce jeudi, l'éclairage nocturne sera éteint entre 23h et 6h du matin. On en parlera avec le maire.
Et puis prenez rendez-vous pour la fin de semaine à Digne-les-Bains.
Sixième opus du festival Le Top, un festival dont l'objectif est de réhabiliter cet ancien cinéma dinois. Où en est le projet ? Réponse avec Grégory Montel. Côté météo.
Le soleil va briller du matin jusqu'au soir pour débuter cette semaine. Quelques nuages pour cet après-midi, mais sans conséquence, ils resteront peu volumineux. Les températures maximales repartent à la hausse entre 28 et 34 degrés. Un coup d'œil rapide pour votre semaine, un temps beaucoup plus instable pour demain, mardi. Et également pour mercredi, un ciel chaotique dès le début de journée et des averses qui seront fréquentes et prendront un caractère orageux l'après-midi. Les températures vont baisser à partir de demain. Elles seront comprises entre 23 et 29 degrés. Une enquête pour blessures involontaires ouverte après qu'une septuagénaire ait été renversée à Gap.
C'était tôt samedi matin aux alentours des 6h30 quand cette femme de 76 ans a été renversée par une voiture avenue Guillaume Farel sous la station Total alors qu'elle se trouvait sur un trottoir. Son pronostic vital est engagé selon le procureur Florent Crouy qui a ouvert une enquête pour blessures involontaires par conducteur aggravée par délit de fuite. La personne au volant aurait été identifiée et est activement recherchée selon le Dauphiné libéré. Quant à la victime, elle a été hospitalisée sur Gap. Des routes accidentogènes ce week-end après cette collision entre une voiture et une moto. C'était ce dimanche à Serres vers 13h sur la départementale 1095. Le pilote du deux roues, âgé d'une soixantaine d'années, a été grièvement blessé et évacué en urgence absolue sur le centre hospitalier de Grenoble. 10 pompiers ont été mobilisés sur place.
Les fortes précipitations de la fin de semaine dernière vont perturber la fin de saison estivale dans l'Ubaï.
Les orages de vendredi sur le bassin de l'Ubaï ont provoqué une lave torrentielle. Elle a dans un premier temps totalement obstrué le cours d'eau, créant une sorte de petit lac à la Condamine-Châtelard. Des entreprises spécialisées sont intervenues afin de créer une tranchée et évacuer l'eau. Mais par sécurité, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris la décision samedi d'interdire l'accès à l'Ubaï, tout comme les activités aquatiques et la navigation entre la Condamine-Châtelard et Saint-Pons. Les communes de Val-d'Oronnax et Josier, Faucon de Barcelonnette, Enchastraille, Barcelonnette et Uvernay-Four sont concernées par cette mesure qui court jusqu'au 30 septembre prochain. Et puis, notez également ce bel orage de grêle qui s'est abattu cette nuit sur Briançon, dernière journée instable de la semaine. Pour information, le temps devrait de nouveau redevenir instable dès ce mardi après-midi.
Forcément, c'est un nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme qui ont déjà subi l'impact de la canicule et de la sécheresse.
Des phénomènes qui n'ont pas épargné non plus les Hautes-Alpes. Les activités autour du lac de Serre-Ponçon ont connu une baisse de 40% du chiffre d'affaires selon l'agence de développement. Plus globalement, la saison aura tout de même été réussie après les deux étés records de 2020 et 2021. La fréquentation des hébergements touristiques aux Alpins est en hausse de près de 1%. 2 500 000 visiteurs sont venus cet été profiter de l'air du département, c'est 47% de la fréquentation annuelle. Les étrangers ont fait leur grand retour, ils représentent même 20% des touristes avec en tête les Belges, les Néerlandais et les Italiens. Des Italiens qui ont d'ailleurs été friands de Serre Chevalier Briançon, là aussi dans la vallée, leur est au bilan, il est bon avec une conclusion. Le vélo aura été le booster de fréquentation. Il faut dire qu'entre les deux étapes du Tour de France au col du Granon et à Briançon, le critérium du Dauphiné également, les amoureux de la petite reine ont été servis et les socioprofessionnels aussi. Pour preuve, la fréquentation s'est élevée de 50% sur le col du Granon lors des opérations col réservé. Le salon village de l'étape du Tour a permis d'avoir une progression de 40% des touristes pour les nuitées et une augmentation de 135% pour les excursions. La seconde partie du mois de juillet a connu un niveau de fréquentation en tassement, fort heureusement relevé par août et un mois de septembre qui prévoit déjà une progression de 4%.
On reste dans le Briançonnais ce matin avec la commune de Puy-Saint-Pierre qui appuie sur le bouton off.
Dès le 1er septembre, on éteindra l'éclairage public de 23h à 6h du matin. Vincent Faubert, bonjour.
Bonjour Cyrielle.
Vous êtes le maire de cette commune d'un peu plus de 500 habitants. Finalement, en fait, il n'y a pas de bon échelon pour faire de l'économie d'énergie.
Non, oui, tout à fait. Alors, je pense que en matière d'extinction d'éclairage public, c'est quelque chose qui est sûrement plus facile à envisager dans une petite commune rurale comme la nôtre, hein, puisqu'on n'a pas de grandes routes très fréquentées en période nocturne. Et justement, je pense que c'est ça qui est intéressant avec les technologies, les outils dont on peut disposer aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir un éclairage adapté à l'usage un petit peu partout, hein. Il s'agit pas forcément d'éteindre uniformément partout, mais plutôt de prendre en compte les spécificités locales. Et c'est vrai que nous, à Puy-Saint-Pierre, on est un petit peu en retard en la matière. On rejoint beaucoup de communes qui sont déjà passées sur ce type de mesures d'extinction d'éclairage public. Et on constate à l'usage qu'il y a des communes qui adaptent les horaires en fonction des saisons, notamment des saisons touristiques. Il y a des communes et des villes qui font le choix d'éteindre qu'une partie de leur éclairage public et de laisser certaines routes principales allumées. Donc on voit aujourd'hui qu'on a quand même pléthore de possibilités pour avancer sur ces sujets-là, parce que les collectivités doivent aussi agir.
Mais vous, dès ce jeudi, tout l'éclairage sera éteint de 23h à 6h.
Oui, effectivement. Alors là, l'idée, on est sur une expérimentation dans un premier temps. Tout l'éclairage, oui, on est sur la commune, on a 7 armoires qui commandent l'ensemble de l'éclairage public. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une expérimentation complète et sur une plage horaire la plus complète possible, de 23h à 6h du matin. Il y a des communes qui éteignent déjà, mais qui le font sur des plages horaires moins longues. Nous, on considère que c'est adapté aux réalités de vie de notre commune. Néanmoins, et c'est pour ça qu'on parle bien d'une expérimentation, on réagira en fonction des retours qu'on pourra avoir de la population, et éventuellement adapter, peut-être restreindre cette plage horaire si certains trouvent qu'elle est trop importante, voire rallumer certaines rues où il pourrait y avoir des problèmes qu'on n'a pas décelés en amont.
Ah oui, vous le disiez d'ailleurs en tout début, c'est plus facile d'éteindre l'éclairage nocturne dans des petites communes. Votre voisine, Briançon, ne le fait pas. Hein. 2/3 des communes du PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestroy et du Quéra ont adopté l'extinction de l'éclairage public la nuit. 1/3 non, je le disais, parmi Briançon. Ce qui est souvent avancé, c'est la sécurité.
Oui, effectivement, c'est souvent... alors moi, je parle plutôt d'idées reçues en la matière, hein, puisque maintenant, justement... c'est la chance qu'on a, nous, à Puy-Saint-Pierre. On bénéficie du retour d'expérience des 12 000 communes en France qui font déjà des mesures d'extinction des éclairages publics, et beaucoup de communes dans le Grand Briançonnais, qui est un territoire assez novateur en la matière. Et vraiment, pour avoir échangé avec d'autres collègues et aussi avoir pu bénéficier des conseils du PETR en la matière, c'est vraiment des idées reçues. Au contraire, même certaines études mettent en avant qu'en matière de sécurité routière, l'extinction incite à davantage de prudence, incite les automobilistes à rouler plus doucement, et donc il y aurait même moins d'accidents. Et quant au cambriolage et autres, non, et au contraire, souvent les cambrioleurs ont eux aussi besoin de lumière pour pouvoir agir, et le plus souvent ils le font en pleine journée. Et très honnêtement, nous, dans notre commune, on n'est pas trop concernés par ce genre de problématique. Pour les villes comme Briançon, j'ai vu que récemment Gap avait
éteint la moitié de ses armoires.
Voilà, donc je me dis que c'est aussi possible à Briançon. Nous, ce qu'on a pu constater à Puy-Saint-Pierre, vu qu'on surplombe Briançon, c'est que forcément, même si on éteint sur notre commune, la pollution lumineuse qui remonte de la ville de Briançon nous
perturbe. Et on va préciser, d'éteindre l'éclairage, ça diminue la pollution lumineuse, c'est ce que vous le disiez, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la faune, c'est bon pour la flore et c'est bon pour le portefeuille. Très rapidement, Vincent Faubert, combien vous y gagnerez
Alors, c'est compliqué aujourd'hui d'estimer précisément combien ça va nous permettre d'économiser. Nous, d'après nos calculs, si on éteint sur ces plages horaires-là, ça nous permettrait en gros d'économiser 61% de la consommation de l'éclairage public. Et on estime à peu près à 10 000 euros nos dépenses actuelles en la matière. Donc, on peut envisager de réduire au moins de moitié cette facture-là, ce qui n'est pas du tout négligeable vu le contexte actuel.
Merci beaucoup Vincent Faubert, maire de Puy-Saint-Pierre, d'avoir été avec nous ce matin. Donc début de cette expérimentation, ce sera ce jeudi 1er septembre.
Et puis prenez déjà rendez-vous pour la fin de semaine à Digne-les-Bains.
Avec le festival Au Top, c'est le collectif Pot of the Top qui organise ce vendredi et samedi cette 6e édition pour finir l'été en beauté. Le mot-clé de la programmation musicale, c'est l'éclectisme avec le rap de James the Prophet and Pap the Kid, le rock, l'électro de Malik Judy ou encore la variété française de Laura Cahen. Une invitation au voyage musical au parc Louis Jouvet et Claire Navion, responsable de la communication.
Cette année, il n'y a pas de grand nom. Par contre, une scène émergente, voilà, avec des artistes déjà nationalement connus et internationalement connus. On est vraiment très heureux de cette programmation qui est pleine de jeunesse.
La nouveauté cette année, c'est la préouverture du vendredi.
Oui, tout à fait. Le vendredi 2, on accueillera le public sur une soirée gratuite. Les bénévoles du Top seront en train d'installer le site et on proposera quand même au public dinois de venir, de participer à cette soirée très simple avec un groupe local qui sera parmi nous qui s'appelle Salon Milord, un sound truck, un camion musique qui sera là également de Marseille qui viendra nous ambiancer et puis bien évidemment on ouvrira la buvette et on aura même la chance d'avoir un food truck très sympa de pâtes italiennes qui s'appelle Jaco et Giro qui viendront nous régaler, voilà.
Ce festival et le collectif Pot of the Top gardent toujours le même but, promouvoir la réhabilitation de l'ancien cinéma de Digne-les-Bains pour en faire un tiers-lieu, le Top, un projet qui est cher à Grégory Montel, l'acteur originaire de la ville.
Malheureusement, le mur est toujours là, le mur du Top est toujours là. Et pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Notre budget d'investissement est bouclé, le budget d'investissement est bouclé depuis déjà quasiment un an, donc c'est un budget de 2 800 000 euros, il est bouclé, 2 millions d'argent public et 800 000 euros d'argent privé. Donc ce budget étant bouclé, nous attendons désormais un aval qui doit venir des collectivités locales pour tout ce qui est de l'ordre du budget de financement annuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le budget de fonctionnement. En fait, on attend que la mairie valide cette idée qu'elle puisse financer le budget annuellement. Les investisseurs privés qui sont avec nous ne se lanceront que lorsqu'ils auront la certitude que la collectivité locale principale, à savoir la commune de Digne, s'investit à minima dans le budget de fonctionnement. Nous ne commencerons pas les travaux si nous n'avons pas un budget de financement qui est bouclé.
Et ce festival, ce sera donc vendredi et samedi à Digne-les-Bains. Il est gratuit pour les moins de 12 ans.
Alpin Sport. Alpin Sport. Et clap de fin pour le rap Ice A Cup.
Les Rapaces de Gap ont soulevé la coupe ce dimanche soir chez eux à l'Alp Arena au terme de 3 rencontres dans ce tournoi amical qui les opposait aux Dragons de Rouen et aux Patriotes de l'UQTR. Les équipes engagées se sont retrouvées à égalité de points et à goal average égal. Ne pouvant être départagées, c'est donc l'équipe des Rapaces qui l'emporte grâce à sa discipline puisque c'est l'équipe la moins pénalisée du tournoi.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.ca.